Le fameux penseur. Cette fois, il est grand.
Oui, cette œuvre a rapidement connu un vif succès. Elle a d'abord été agrandie et fondue en bronze pour être placée devant le Panthéon à Paris. Ensuite, M. Rodin en a vendu d'autres exemplaires qu'on retrouve à travers le monde.
Et tu m'as dit que dans la porte, ce personnage s'appelait le poète.
Heureux de savoir que tu écoutes bien ce que je te raconte, Zach.
C'est vrai, le maître l'identifiait à Dante et il lui a donné cette position, penchée en avant, pour observer ce qui se passe en bas, dans les enfers. Deux sculptures qu'il admire l'ont inspiré pour l'attitude de ce personnage. L'une créée par Jean-Baptiste Carpo et l'autre par Michel-Ange, qu'il considère comme le plus grand. Dans chacune d'elles, on voit un homme plongé dans ses pensées.
Il réfléchit.
Oui, le maître dit que le penseur représente un créateur. Il affirme parfois qu'il s'agit de lui-même, qu'il a fait sa propre statue.
Mais les agrandissements, comment ils sont faits, eux?
Dans ce domaine, c'est M. Henri qui excelle, Henri Le Bossé. Il utilise un pantographe pour sculpter.
Un pantographe?
Oui, c'est un outil qu'on utilise pour agrandir des dessins. Pour t'expliquer les choses simplement, disons qu'il s'agit de compas qui sont reliés ensemble. L'un est petit et l'autre grand. Quand tu dessines avec le petit, le grand trace le même dessin, mais agrandi. En ce qui concerne M. Henri, il trace dans l'argile plutôt que sur une feuille.
Je ne suis pas sûr de tout saisir.
M. Henri utilise un outil qui, d'un côté, sert à palper les contours de la sculpture qu'il reproduit. De l'autre côté, et dans des dimensions bien plus grandes, son outil sculpte la terre. Il réussit à refaire telle quelle les plus fins détails de l'œuvre du maître.
Et si je comprends bien, tout ce que M. Henri fabrique est ensuite moulé dans le plâtre.
Exactement.
Ils sont fous, ces sculpteurs.